cinéma, enquête de cinéma. Enquête de cinéma, voilà, nous sommes le lundi 5 décembre, Fab 6 Lundi 5 décembre 2016, enquête de cinéma sur Radio Galère, 88.4, on fait les réglages un peu, voilà, vous ne nous en voudrez pas. Alors ce soir, nous sommes en présence de Lucie Julie Desch, Caroline Beurette, Wahib Mortada, Fabrice Copin, et nous avons l'honneur, le privilège et la joie d'accueillir Omar Belkacim, mets-toi pas les doigts dans le nez Omar, qui nous vient tout droit de Grande Kabylie pour nous présenter son film El Moudja, que nous avons tous vu et dont nous allons passer la soirée à graviter autour de ce film, de cette histoire de Omar. On vous souhaite une bonne soirée. Nous commençons par un texte que va nous lire Wahib.
Merci Lolo. C'est un texte de Ahmed Bouanani, cinéaste, écrivain et poète marocain, décédé, hélas, mais dont l'œuvre est à peine en train de se déchiffrer, de se décrypter grâce à sa fille et à des amis proches. Sans tarder, je cite. Aujourd'hui, certains esprits, à notre époque, et ils sont nombreux, hélas, s'obstinent à vouloir nous enfermer dans le carcan haut, combien étroit, celui de l'exclusion. Ils se nourrissent exclusivement de faux problèmes. Toute langue est étrangère. Mais dans toute langue choisie, l'écrivain se doit de forger son propre dialecte. Ceci, c'est pour dire que le cinéma, c'est d'abord de l'écriture. Et souvent, on a posé la question, toujours la même, à Ahmed Bouanani, qu'est-ce que c'est qu'un film? Il répond, un film n'est jamais un rapport sur la vie. Un film est un rêve. Un rêve peut-être vulgaire, stupide, plat et informe. C'est peut-être un cauchemar. Mais un rêve n'est jamais un mensonge.
Merci Wahib pour ce texte, pour commencer cette émission. Omar, tu en penses quoi?
C'est émouvant. J'aimerais bien entendre encore un autre, si c'est possible.
Alors dans la soirée, tu nous prépares un autre texte.
Restons dans la poésie, dans les rêves. Je t'assure, il n'y a pas mieux.
Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Donc tu nous en trouves un pour la fin de l'émission.
On se baladera certainement autour de l'écriture et du cinéma.
Mais voilà.
Alors, par quoi commençons?
On a commencé par l'essentiel. Franchement, c'est difficile d'enchaîner maintenant. Il faut qu'on rentre maintenant. Enfin.
Faut qu'on rentre.
Ouais.
On rentre.
Ouais.
On rentre dans le rêve ou dans le sujet. Ouais.
Alors Omar, tu fais tes films. Tu produis tes films comment?
Avec la rage de. La rage d'exister, de dire quelque chose. Et cela n'est possible. Cela est possible lorsqu'on est entouré par des amis, complices, des amis passionnés. Et tout ça, enfin. Et avec l'amitié, l'amour, la poésie. Et il y a possibilité de produire ces films, faire ces films.
D'accord. C'est une belle conception de la production. J'aimerais répondre ça moi aussi. Oui, on part fort, hein. On va faire attention. On va faire attention. Non, mais tu me disais aussi hors antenne que des fois tu vends des figues.
Oui, d'abord je suis montagnard, paysan. Je suis très proche de. Moi, je suis quelqu'un de profondément ancré dans son espace. Donc, j'ai les pieds sur terre, et j'aime cette terre. Et cette terre me fait vivre aujourd'hui. Voilà, donc, c'est vrai que le Moujat, si le projet. Si le film Moujat existe aujourd'hui, bien sûr qu'il y a des amis qui sont derrière moi, ils le sont toujours, ils sont là, pas avec moi, Lucie Desch et Caroline Beret. Mais il y a aussi la terre, il y a aussi la nature. C'est vrai que j'ai des figuiers, je cultive des figues sèches, et grâce à aux figues sèches que j'ai cultivées moi-même. Voilà, le Moujat, on l'a vu aujourd'hui à Marseille.
La vague.
La vague.
Alors, Caro et Lucie, vous avez travaillé à Ecomar. On le sent, ce côté montagnard, quand on travaille avec lui?
Je laisse Lucie répondre, parce qu'elle a travaillé en amont du film, elle a pris le
son. On fait chronologique.
Voilà, ouais.
c'est pas dans tes habitudes, pourtant. Caro, elle a fait le montage, c'est pour ça que je dis ça. Pas chronologique, mais un peu dans
les films. Je pense qu'il faudrait peut-être un peu présenter le film de Omar.
Allez.
C'est vrai, mais peut-être que...
Ouais, peut-être que toi, Wahib, tu peux le faire.
Mais parlons plutôt de la montagne.
Je suis encore frais.
Toi, tu peux le faire, Wahib, ouais.
Je viens de le voir à peine.
Vas-y, raconte-le, toi, un peu.
Écoutez, moi, je suis encore ému, parce que je viens de rencontrer en plus Omar, à l'instant. Et j'ai vu un film qui... qui fait très attention à... qui protège celui qui regarde. J'ai vu un film qui touche à des questions profondément essentielles dans le fond. La question de la désertification, du désert syndical. Et le sujet tabou, la place de la femme dans la société. On est bien en Algérie, mais ça, c'est des questions qui interrogent pas que l'Algérie, qui interrogent bon nombre de pays dans notre planète aujourd'hui. Et comment ça s'est traité avec une grande distance et une intelligence raffinée, un esprit bienveillant, protecteur, sans trop rentrer dans la politique, en laissant parler la politique. En interrogeant aussi le silence, ce silence qui tue souvent, mais qui dit tellement, parfois quand on a un semblant de bonheur, cet enfant qui veut garder son papa, qui l'embrasse et qui lui donne l'affection. C'est l'enfant qui redonne un peu d'affection à son papa pour revenir à la maison. Mais son papa n'arrive pas à guérir de ce mal qui le rôde, qui est le chômage, et qui se laisse entraîner sous les pneus d'un véhicule et qui se donne la mort. En même temps, un sujet dans quelque chose qui est dramatique, et j'espère ne pas trop prendre la parole, c'est juste pour nos amis auditeurs, essayer de les mettre dans le bain, si j'ai cette capacité encore à mettre ceux qui écoutent, à faire passer les images que nous a montrées Omar. Je trouve aussi... Et grâce à mes amis réunis ici, un une œuvre, mais franchement aboutie. Ce n'est pas pour fausse modestie, mais vraiment, je vois quelque chose qui s'est construit touche à touche pour rendre âme à ces deux caméras qui sont posées champ contre champ, et des fois elles s'incurvent toutes les deux sur un même champ. Et puis j'ai trouvé le travail de Tariq quelque chose de très difficile à réaliser, par exemple dans ses choix compliqués quand on est face à l'obscur, quand on travaille dans l'obscurité. Et on a déjà fait l'expérience ensemble dans un tournage de film qu'on a fait dernièrement sur Paris pour des sortants de la FEMIS, où Tariq a fait un super travail. Alors je ne sais pas si ce film a été étalonné par la suite, est-ce qu'il y a eu une prospective à ce niveau, ou alors comment rendre l'âme de ce qu'on arrive à peine à percevoir dans l'obscurité avec des caméras qu'on dit aujourd'hui super rétiniennes et captives de l'intime. Comment traiter un noir en plus teinté de rouge, parce que dans notre société il y a beaucoup de rouge dans les chambres, dans nos vêtements, et comment rendre l'âme à ce noir pourpre sans trop en jouer pour dramatiser encore ce qui est dramatique et ce qu'on voit, ce qui nous donne à voir tes acteurs, Omar, à l'écran. Donc il y a beaucoup à dire. J'aimerais bien aussi lire notre ami Shkali qui a écrit sur ton travail,
ouais.
Pour mieux donner le sens à ce cinéma que tu nous apportes. Mmh. Merci.
Là, je suis vraiment ému. Vraiment, tu es adorable. Tu es vraiment adorable. Entendre ça, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup du bien. Vraiment. Le Mouja n'aurait pas cet effet sans vraiment la touche de Lucie Desch, de Caroline Berry, de Tariq Sami, de six comédiens, de tous ces gens qui ont été derrière le film. Si le film peut-être touche aujourd'hui, ce n'est pas Omar. Moi, je suis pour rien. Moi, ce n'est que l'intention. C'est la sincérité de tous ces gens derrière le projet qui a fait de Mouja ce qu'il est aujourd'hui. Je suis vraiment, vraiment pour rien. C'est leur générosité, leur sincérité, leur engagement sincère, ce désir fou collectif d'aller vers quelque chose. C'est ce qui a fait de Mouja ce qu'il est aujourd'hui. Moi, ce n'est qu'une intention, je suis vraiment, vraiment pour rien. C'est quelque chose de... Mouja, c'est un pur produit de l'amitié, de l'amour, de la solidarité, de tout ce qui est beau dans ce monde. C'est tout, c'est ça le Mouja pour moi. Et je suis vraiment pour rien.
Ouh là là, ça chauffe ce soir. Nous n'avons pas pris de MDMA. Ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup d'amour qui transpire de partout. On continue.
Non, mais ce que moi j'allais dire, c'est que ça me faisait penser à ce que Wahibi disait, que c'est un film qui parle de politique, qui évoque le politique, mais sans que ça soit...
Et qui laisse parler le politique.
Et bah, ça me faisait écho ce qu'il racontait Omar, parce que, je sais pas, moi quand je suis venue le monter, ce film, il y avait un truc très fluide, en fait, dans le travail. Peut-être au tournage, c'était des choses différentes, mais en tout cas, il y avait comme ça une atmosphère. Bah déjà, de monter pour un montagnard, c'est monter à la montagne, c'est-à-dire en pleine Kabylie, donc dans un grenier de la maison d'Omar. Et du coup, on n'est pas dans une salle de montage, je sais pas, dans une grande ville. Et on était prêts, en fait, aussi de... on a passé du temps à Béjaïa, mais c'était à Dekal. Dekal, c'est chez Omar. C'est en montagne, du coup, c'est en Kabylie.
Tu parlais de papillons, toi, quand t'étais en montage là-bas.
Ouais.
Je t'ai envoyé des textos. Ouais, tu me rappelles.
Ouais, tu parlais des papillons.
Ouais, les abeilles.
De la montagne.
Les papillons et les abeilles.
Et ben ça, c'était toute une autre société que dans le film. Ça devait être pas mal.
Ouais. Ben, en même temps, la société du film, elle revenait. En fait, Omar, il a tourné avec ses amis qui ne sont pas des comédiens. Et qui ont tous improvisé en fait leur rôle. Et bah du coup c'est un film aussi. Enfin toi tu parles de tes amis là parce que on est là, mais des films, enfin des gens qui ont participé au film, mais c'était aussi tous les comédiens quoi, tous les gens qui incarnent un rôle sont pas comédiens. Donc voilà, ça démarre aussi de même.
Les décors aussi étaient généreux.
Ouais. Les décors ont été généreux.
Des corps naturels.
Ouais. Ils nous ont beaucoup donné quand même. Ces arbres, ces plantes, ces papillons quand même. Ils étaient pour quelque chose quand même.
Mais t'as tourné en ville, toi. T'as tourné la ville.
Oui, j'ai tourné la ville, mais avec
la ville de Béjaï.
Mais avec une rage, un désir montagnard.
C'est quoi cette montagne? Pourquoi on en parle ce soir, par exemple?
Ben, Caroline, elle a beaucoup de choses à dire quand même. Mais franchement, quand il s'agit de montagne, il y a des choses à dire. Sur la montagne. Les sangliers, etc. Il fallait chasser pour manger, sinon il n'y a rien.
Putain, derrière toi, Omar, il y a un cadre au mur avec Fatman Soumel.
Ouais, c'est vraiment ce que je vois, ce que j'ai vu, oui.
La grande résistante
kabyle. Guerrière, une femme courageuse.
De la montagne.
Oui, maman, oui. Et voilà. De la montagne aussi.
Ouais, montagne ouais, derrière toi. Ouais. Et c'est très drôle parce que dans le cadre droit en bas, dans l'angle droit, il y a une poteta carmos qui veut dire. C'est très drôle.
C'est bizarre, je vois. Il n'y a pas que toi, Lulu, qui confond la figue de Barbarie avec la figue.
Non, mais parce qu'au bled, en tout cas, en Kabylie, ça se dit pareil.
Oui.
Ça se dit carmos.
Ça, c'est ça. Non, en arabe, c'est pas la même chose.
Alors.
En arabe, c'est le carmos, c'est la figue.
Oui, oui.
La figue.
Non, Kabyle.
La figue de celle que Omar sèche.
C'est un autre fruit. C'est vrai que c'est deux fruits.
Ouais. Ce sont deux fruits. Oui.
Non, Kabyle, c'est un carmos. C'est carmos. Ça, c'est carmos.
Mais j'ai
c'est bien dit, ouais. Lucie.
Ouais, en berbère, c'est différent.
Nous, les figues sèches, c'est tézert et non carmos. Tézert. En berbère.
L'India. C'est Maghreb nous, United ce
alors,
soir.
Alors, au Maroc,
il est du Maroc.
Tu verrais qu'au Maroc, c'est l'India. Alors là,
en Tunisie aussi. Les Tunisiens aussi disent l'India, carmos.
Et peut-être parce que ça a été importé d'Inde. Ouais. Il faudrait qu'on refasse un peu
l'histoire de la carmos. Ouais. Il reste.
Si je comprends, Caro, donc elle connaît bien ton paysage
familier,
intérieur et extérieur.
Et tu dis,
olé papa.
Tu nous témoignes, Omar, ce soir, tu nous témoignes que tu arrives à en vivre. Tu arrives à en vivre du produit de la terre en parlant de carmos, en parlant de figue.
Ouais.
La figue, pas la figue de Barbarie, mais la figue, tout simplement. La figue de Barbarie, c'est l'India.
Ne pas
confondre.
C'est ça. Eh ben chez toi, c'est différent, c'est ça.
Avec modération.
Oui, je sais que c'est dur de te dire ça, mais essaie de rester dans la ligne directive du micro.
Oui.
Ouais. Ne le touche pas avec ta main. Oui.
David nous rejoint.
On a rejoint. Ouais, et on a...
Alors ouais, voilà. Revenons au sérieux là. C'est une émission de cinéma.
Comment
on
tu
est
arrives
enquête.
Donc Omar, à en vivre de tes figues.
De
tes figues.
De tes.
Deux. Mes figues.
T'es non seulement cultivateur, tu cultives de la figue.
Deux.
La figue.
Oui, la figue, oui, d'accord.
Dans ton domaine.
Ouais.
Et tu arrives à la vendre, à te ramener un pécule avec ça, tu dis que tu vis du produit de ta terre. C'est magnifique. Nous, ouais, mais on est complètement rompus avec ce système.
Oui, mais attends, limite. Hein.
Donc, voilà, Carole me dit modération. Mais attends, quand même.
C'est un système qui a des limites.
Donc, David vient de nous rejoindre quand même. Hein. Bonjour, David.
Ouais. Bonjour.
Non, mais tu, c'est vrai, cet après-midi, tu me disais que des fois, tu en vendais à plusieurs épiceries du village et que ça te permettait de tenir 3-4 mois. Quoi.
Ouais, ça c'est bien. Mais pour le film, quand même, non. Ce n'était pas. Il faut savoir une chose quand même, Lucide, Lucide, Tarek, Caro, tous ceux qui ont été derrière le film Mouja, et non seulement ils n'ont pas touché un centime, c'est qu'on cotisait aussi.
Donc, mais ils ont mangé de la figue,
ils sont venus à la...
du moins.
Du sanglier, oui, ça c'est vrai.
Moi, je n'en ai pas mangé personnellement. T'en as mangé, Caro? T'en as mangé?
Bah oui.
Ah, bah. Bon, ben ça se répare.
Alors.
Bon, mais oui, mais après, de toute façon, quand on tourne un film en Algérie hors des clous, de toute façon, c'est toujours un film hyper collectif, quoi. Je vois pas. Enfin, David, toi aussi, tu as tourné hyper en collectif en Algérie, ça se. Les choses, je sais pas, il y a de la place pour ça, quoi. Il y a de la place pour ça chez les gens.
C'est comme ça que ça se fait, même. Enfin,
ouais.
Oui, il y a pas trop de cadres.
Ou de milieu en Algérie, de cinéma. Du coup, on est obligé d'inventer des choses. Ouais. Enfin, je sais pas, vous revenez de Tunisie, j'imagine que c'était un peu pareil, non?
On fait les Globetrotters ce soir. Qui c'est qui vient de Tunisie? Ah ouais, parce qu'en fait, on a un énorme consortium, c'est tout un club. On travaille tout. C'est très drôle parce qu'on a tous un peu bossé ensemble. Bah, pas moi, avec toi, par exemple. Mais tous à des endroits différents, dans des contextes différents. Mais nous, on
c'est de la consanguinité. De...
Ouais, ça craint, ça commence à craindre.
Ouais, ça dépend jusqu'à quel niveau.
Bah, c'est la MIFA aussi.
Ouais, c'est la MIFA, c'est pour ça. C'est...
Ouais, entre deux. Ouais. Mais on est, Caro et moi, on était en Tunisie, ouais.
Vas-y, David.
Omar aussi y était il n'y a pas longtemps.
Ah, aussi.
Okay, ouais, tu y étais, David, toi, dernièrement?
Tout le temps.
Non, mais restons.
Bon, Maghreb United, ça continue.
Ouais, restons. Revenons à El Moudja. D'accord, pour nos auditeurs et auditrices.
Je pensais en fait sur le chemin quand on venait. En fait, Omar, il me racontait un peu quelques projections qu'il a vécues en France et ça m'intéressait qu'il puisse raconter ça un peu, la réception du film en France et surtout sur les contextes. Tu puisses nous dire un peu qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce que tu retiens de les quelques fois où tu as montré le film là, ici.
En tous les cas. Dans tous les festivals où Mouja est passé, de Clermont-Ferrand à Angers, à Flamme, à Puzonceau, l'accueil a toujours été favorable, la critique a toujours été positive. Je découvre le film, à chaque projection, je découvre le film. Si je doute encore, et je suis pas vraiment. J'écoute. Mais à chaque fois, c'est vraiment une découverte. À chaque fois, c'est vraiment une surprise. À chaque fois, j'apprends des choses sur les films de Mouja. Et cela, je découvre encore des choses. Là avec Wahib, ça m'a vraiment. J'étais vraiment ému et ça m'a fait vraiment. C'est bouleversant. Tu vois, il y a. Chacun parle de Mouja tel qu'il le voit. Et dans chaque regard et dans chaque ressenti, je découvre des choses sur le film Mouja. Et ça me touche. Et jusqu'ici, il n'y a que du positif. Enfin, vraiment, que du positif. Mais aussi ailleurs en Amérique latine ou en Afrique ou au Chinois aussi.
T'es allé en Amérique latine?
Oui, en Argentine. Mais aussi dans des villages, dans des quartiers, que soit la vie des chômeurs, des ouvriers, des syndicalistes, des critiques, des professionnels, etc. Ça a toujours été. À chaque fois, il y a quelque chose de nouveau pour moi.
El Moudja, ça signifie la vague.
Ouais.
Et du coup, c'est tout, on peut dire, une métaphore, en fait, de... Bah, de sorte de vague qu'il peut y avoir suite à des décisions économiques dans un pays. Là, bah, c'est le cas de l'Algérie des années 90. Du coup, on parle souvent de cette période-là en Algérie. On parle souvent de la guerre civile et de ses méfaits.
Des vagues de licenciements.
Et voilà, du coup, Omar l'attaque, attaque un peu cette période-là sur un autre pan, en fait. C'est ouais. aussi pour ça qu'il y a une réception, je pense. Enfin, du coup, il y a des syndicalistes, des personnes, des travailleurs qui se sont intéressés aussi à ce travail-là. Non,
c'est vrai que quand à chaque fois qu'il faut parler de la décennie noire en Algérie, on a souvent tendance à penser tout de suite, on pense au terrorisme. Mais aussi, en parallèle, il y a aussi un terrorisme économique qui a quand même provoqué des centaines de suicides et plus de 500 000 travailleurs licenciés. Rien que la période 2014-2017, il y a eu quand même 10 010 entreprises publiques fermées et plus de 500 000 travailleurs licenciés. Et des centaines de suicides, pertes de famille, meurtres de famille, sans vraiment compter des gens qui sont encore sous traitement psychiatrique dû au choc de licenciement et une perte de famille, du jour au lendemain, ils se retrouvent en chômage. C'était vraiment un drame qui a secoué les femmes algériennes et dont on n'en parle jamais. Jamais. Même la presse dite indépendante, on n'en parle presque jamais. Et ça reste encore un sujet tabou. Et pourtant, les FMI, c'est un sujet aussi... Et les planétaires, quand on voit demain Airbus, il va y avoir plus de 10 000 licenciements au niveau de Airbus, et en plus, sans compter France Télécom, et on a vu ce qui s'est passé en Grèce, on a vu ce qui s'est passé en Italie, et un peu partout, dans le monde entier. Donc le sujet est vraiment universel, n'est pas seulement algérien. Le problème, c'est la mondialisation économique. Et voilà, quand tu touches à l'idéologie, là, tu es automatiquement censuré. Et voilà, tu touches à l'essentiel. Tu touches le fond. Le problème n'est pas seulement politique, mais il est aussi idéologique. Là, c'est un peu plus sérieux pour ceux qui font la politique, ceux qui savent ce qu'ils veulent. Pour les responsables politiques en ce moment, ils savent ce qu'ils veulent. Et quand tu touches le fond, donc là, tu déranges. Tu peux parler de démocratie, de liberté, tout le monde le dit, mais il n'y a pas de problème. Mais quand tu touches le fond, là, tu déranges ces pseudo-démocrates, ces donneurs de leçons de liberté, de démocratie. Alors qu'ils ont soutenu les dictatures arabes jusqu'à la dernière seconde. On a vu comment ils ont... Comment ils ont menacé le peuple grec qui avait donné une leçon de démocratie aux dernières élections législatives. On a vu comment ils ont sanctionné le peuple grec pour avoir osé donner une leçon de démocratie. Parce que là, on a vu que les intérêts des multinationales sont en danger. Là, la démocratie et la liberté n'ont plus de sens. Il y a les intérêts.
Et par rapport aux politiques et cinéma, tu as travaillé avec Tariq Teguia.
Je savais que David Dion, tu vas parler de Tariq Teguia. Je t'assure. Ah,
Alexon, soit un, c'est lui.
Il est venu pour ça, je t'assure.
C'est quoi l'intérêt?
Putain, c'est fou, moi j'étais parti là, loin, et hop.
Ah, mais je t'assure. S'il y avait David Dion, je savais qu'il va me parler de Tariq.
Ça, c'était pas lui.
J'étais pas là au début, c'est pour ça. C'était pour mettre dans l'ambiance.
Ah, mais j'allais sur la même chose.
Ça va, il revient de son cours d'aïkido, donc il est en forme.
Vous êtes complices à Lolo, je t'assure.
Alors, c'est pas grave, vas-y.
Non, bah alors, je reviens d'aïkido. Et alors, et on m'a parlé que le gros orteil, c'était notre lien au karma.
C'est quoi le karma?
Non, et le karma, en fait, c'est notre destin. Il y a les conflits transgénérationnels et donc la vie, c'est de plus en plus se rapprocher du karma.
C'est aussi simple que ça, le karma.
C'est le destin, ouais. C'est notre propre puissance d'agir. Ouais.
C'est comme Mektoub.
Je sais pas si c'est comme
on dit pas t'as un bon mektoub ou un mauvais mektoub. Alors qu'on dit t'as un bon karma ou t'as un mauvais karma, c'est pas tout à fait pareil.
C'est une définition qui vraiment me révolutionne. Hein.
Allez,
c'est l'aïkido.
Ça y est,
hein.
c'est
ce qui nous met en action.
Mais c'est vrai, le mektoub, c'est la traduction, ce serait quoi?
Destin ou destiné?
Le destin.
Mais destin ou destiné?
Vas-y, reviens à ta question. Vas-y,
on
te fait une exception. On te peut bien, c'est la dernière.
On le tord.
Alors, mais c'est la dernière, vas-y.
Cinéma et politique.
Allez, cinéma et politique.
Donc, tu as travaillé sur un film de Tariq Teguia?
Ouais.
Lequel?
Le plus politique.
Révolution Zinge.
Et ton travail, c'était quoi?
Assistant réalisateur.
Et t'es allé à Beyrouth
Tu veux qu'on parle du film Zinga Révolution?
Ouais. c'est pour ça que je trouvais que ça enfin, entre ce que tu disais et Révolution Zinga, je sais.
Oui, mais là,
l'évocation même du mot réalisateur, ça fait peur au réalisateur.
Vous êtes trompé d'inviter. Il fallait inviter Tariq Teguia, pas moi.
de ton travail.
Oui, en tant qu'assistant. Oui,
ouais.
J'ai déjà dit, David.
Oui, mais tu as fait quoi?
L'assistant réalisateur.
Concrètement.
Il a donné.
Il ne veut pas en parler. Hein,
il a donné. C'est l'essentiel.
Non, mais tu sais, quand tu es assistant réel sur
David, un tournage revenons au gros orteil, alors.
Donc, voilà,
comment va ton gros orteil, Omar?
Sérieusement, quand même. Moi, le Mougin, bon, moi, j'ai fait une formation cinéma à l'IMC en Tunisie, donc formaté. J'étais assistant réalisateur, j'ai travaillé sur une dizaine de productions cinématographiques, de grosses productions, donc en Tunisie, en Égypte. Alors, j'étais vraiment formaté. Pour moi, faire un film cinéma, il fallait vraiment une mobilisation humaine, logistique, la machinerie, il faut un budget immense pour faire un film cinéma. J'ai eu une très mauvaise expérience avec mon premier film court-métrage derrière, avec un producteur, donc la machinerie, donc le ministère de la Culture, la télévision, il y avait de l'argent énorme pour le film derrière. Mmh. Une fois sur place, je l'ai raté, parce qu'il y avait de l'argent en jeu, il y avait le producteur et tout. J'étais complètement désespéré. J'avais un film, Le Mougin. Le Mougin, c'était d'abord, à base, c'était un long métrage. Pour moi, c'est sans argent du ministère de la Culture, impossible de faire un film. Ce n'est plus possible. Sans argent, on ne pourra pas faire de cinéma. J'étais complètement désespéré. Vraiment, je me suis dit, il faut que j'arrête. Je reste assistant, je travaille comme assistant, c'est bon. Et j'ai vu ça avec des productions où j'ai bossé comme assistant réalisateur. Il y avait plus de 300 personnes derrière la caméra, ils sont comptés de la figuration, de la machinerie, j'étais complètement désespéré. Je me suis dit, maintenant, sans ministère de la Culture, sans producteur, sans tout vraiment ce monde, je ne pourrais pas faire de ça. Et donc, ça ne sert à rien de... Ne pense plus à faire de films. Après, hop, voilà. Donc, je connais Tariq Teguia, j'ai découvert à travers ses films. J'étais fan. On s'est rencontrés à Bijaya dans le cadre des rencontres cinématographiques de Bijaya où moi j'ai présenté mon film derrière et lui avec son film Eland. C'est là on s'est rencontrés, donc il est venu voir le film derrière et tout. Le lendemain, on s'est sympathisé. Quelques mois après, il m'a appelé pour me demander si je pouvais vraiment en ces termes. Omar, j'aimerais bien t'associer à mon prochain projet. C'était vraiment le mot. Pas m'assister, vraiment t'associer à mon prochain projet. Et je lui dis, écoute, pas de soucis, etc. Et tout. Donc, il m'a envoyé le scénario. C'était Ben Bottuta. Pour moi, c'est un truc historique, de costume et tout. Je me suis dit, non, ça va très vraiment. Il jure, après le premier jour, le deuxième jour, donc je voyais que deux, trois personnes, c'était toujours les mêmes trois personnes. On était dans une voiture avec une petite caméra, peu de moyens, ni maquilleuse, ni machiniste, ni cinéraliste, ni coiffeur. On était quatre seulement. Je commençais à me poser des questions, comment c'était pas arrivé à faire ces films. Alors, quatre personnes, il n'y a pas d'argent, enfin, c'est vraiment un petit budget. Et puis voilà, donc on commençait à tourner, on a passé quand même, on était en Liban, en Grèce, en Égypte, en Algérie. Et là, on a fini à faire le film, quatre seulement, avec peu de moyens. Il fait de très beaux films quand on a vu. Après le film de Zinger Révolution, je me suis dit que je pense que c'est possible de faire un film avec deux, trois personnes et peu de moyens. Parce que il y a certains qui mobilisent tout un monde. Il y a plus de 300, 400 techniciens derrière la caméra et une centaine de figurations d'un budget, à des budgets astronomiques. Et puis, on ne voit rien à l'écran. Alors que Tariq avec rien, on voit beaucoup de choses à l'écran. Et le cinéma, c'est l'écran, c'est pas le plateau. Sur le plateau, c'est du cinéma, mais à l'écran, il n'y a eu rien. J'ai bossé sur des films, j'ai travaillé avec Yusuf Shahin, j'ai travaillé avec Roberto Benigni dans Le Patient Anglais, dans Le Tigre et la Neige, et Le Patient Anglais, j'étais stagiaire. Donc, bon, Le Patient Anglais, on peut dire que c'est un... avec des cinéastes comme Kazem Hajji en Algérie, en Tunisie, c'est des films qui ont été produits à des budgets vraiment astronomiques, quand même, énormes. Et j'ai rien vu à l'écran, alors qu'avec Tariq Tighia, j'ai vu avec mes propres yeux, j'étais là. On a passé quand même deux ans ensemble, et j'ai vu des choses à l'écran. C'était vraiment un déclic. Je me suis dit que le Mouja, je pourrais le faire avec rien, juste la passion, la rage de faire. Et voilà. Grâce à cette expérience avec Tariq Tighia, le Mouja existe. Finalement, faire du cinéma, c'est possible, si on croit, si on a vraiment des choses, on a des choses vraiment à dire. Avec beaucoup de passion, avec beaucoup de poésie, beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié, le cinéma est possible.
C'est une très belle première fin pour passer un petit morceau de musique. Hein, ça vous dit? Allez, c'est Bassis, Je m'en fous, c'est ça?
Ouais.
يسمع بدباطي يدبزو على الكرسي شمنفور يخطي ولي راسي كي نسمع بوض شوازي ما سيدس مخو مكراسي وانا معالي بيس مقاسي كي نشوف تليفزيون كاين لا غريف دي زونسينيون يسكي ولهم لي فينيون شمنفو بالفوضى مونطال عندي كوستو في الفوتبال كاع لا جوناس مالا كونطال انايا اليوم جو مون فو كاع الدنيا كلشي بستان كلشي كذاب كلشي فو قولي وين لا فيتيتي كي نقرا في الجورنال كاين باكار بين الافلان جمونفو انايا خرجت زمان يدبزو يلعبو ديما بيناتهم يتحبو مازال في البقرا يحلبو كي نسمع عالمرا مسكينة حسبوها بقرا لا تكتب وما تقرا عرفت قانون الأسرة طومبي اليوم رجعت حرة جمونفو انا مزوج عشرة انا يا اليوم جو مون فو تعرف اليوم كل شي بستي كل شي كذاب كل شي فو قولي وين لا فيريتي
كاين غاشي في المطار كاين غاشي في البار في الشوارع كي لي باربار كاين غاشي في الجامع النص راقد والنص يسمع شلونك وانا نصلي في الدار تليفون لا صوني بريزيدان ديميسيوني الغوانا يعفوني واش نخير قلبي طاب اللي نشوفو نقول شباب شلونك وانا يغلق الباب انا يا اليوم جو مون فو كعرف دنيا كل شي بستيك كل شي كذاب كل شي فور قول لي وين لا فيريتي انا يا اليوم جو مون فو كعرف دنيا كل شي بستيك كل شي كذاب كل شي فور قول لي وين لا فيريتي يسمع بالكوديتا والحومة قاريطة والحومة قاريطة ندخل تحت الكوفرطة وغيطي غيطي يا الغيطة حتى تخلص الموبيطة قولي واش نهد الحياة يحكموا فينا المدمات يحكموا فينا المدمات كل شي خلاص ورجال رمونا كامل بلا بوبال واش عملنا بالاستقلال انا يا اليوم جو مون فو كعرف اليوم كل شي بستي كل شي كذاب كل شي فو قولي وين لا فيريتي انا يا اليوم جو مون فو كعرف اليوم كل شي بستي كل شي كذاب كل شي فو قولي وين لا فيريتي بلزانديلو كاين منهم بالكيلو لا بلاص رجعت بستيلو عربوفون فرانكوفون قاهرة ولا لا صوربون راجل فيهم قول لي شكون يسمع بالساتليت وتساير خدمة زلاميت وتتفرقع كي ديناميت الناس خرجت من الاوربيت وحنا مازال بدون تزيد انا كرهت وما انا مليت انا يا اليوم جو مون فو كعرف اليوم كل شي بستي انا يا اليوم جو مون فو قولي وين لا فيريتي
Alors nous sommes de retour sur les ondes de Radio Galère 88.4 avec Caroline, Lucie, David, Wahib et Omar.
Et Fab.
Et Fab, pardon Fab.
Et Lolo.
Et Lolo, voilà. Pour continuer à tourner...
Lolo, t'as oublié ta clope.
Ouais. On n'a pas le droit de fumer en Radio Galère. Pour continuer à tourner autour de El Mouja, autour de la montagne. Omar, je voulais savoir comment on chassait le sanglier.
Il y a deux façons. Il y a la chasse avec un fusil de chasse, avec des balles. Et puis il y a les pièges. Donc il y a aussi les pièges. Donc tu tends un piège et le lendemain, tu as devant toi 50 kilos, 60 kilos de viande. Il y a bien sûr des muscles, la peau, il y a les os, il y a les organes et tout. Mais en tous les cas, tu as 50 kilos de viande, ça c'est sûr.
Et les poils.
Ouais.
C'est là, terrible les poils de sanglier.
Ouais, ça c'est.
C'est vrai que
c'est coriace.
Curieux de savoir comment est réglementée la chasse du sanglier en Algérie.
Ah, parlons-en de l'amour. Je sais pas quoi.
Non, mais parce que
de la poésie.
C'est poétique aussi.
Pas de poésie dans la chasse.
Attends, regarde, je crois. Ça me fait
ou pas? C'est ralouf ou pas?
Oui, c'est ralouf, sauvage. Mais non, mais sérieux, sa question, elle rejoint un film célèbre algérien, c'est le charbonnier, parce que c'est la réglementation d'une pratique naturelle dans la nature sauvage.
Ouais.
Finalement, dans le charbonnier, c'est le début de la régulation de ce métier de charbonnier. Et là, il parle de régulation aussi dans la nature sauvage. Est-ce que l'État s'en mêle?
Pour l'équilibre de l'écosystème.
Ici en France, elles s'en mêlent, bien entendu. Hein.
Mais alors en Algérie, comme c'est haram en plus.
On ne doit surtout pas le ramasser, c'est interdit. Mm. Oh, oui. Ça pèse lourd dans un procès.
Non, en Algérie, non.
Alors, en plus, on est en Kabylie quand même, il faut reconstituer, ouais, un peu, recontextualiser du coup. La Kabylie, c'est quand même peut-être encore un état dans
toujours
l'état.
En quête. Hein.
Nous sommes toujours en quête de cinéma, nous ne sommes pas encore arrivés au cinéma, la montagne, les sangliers.
Il faut toujours courir après le cinéma.
Il ne faut jamais y arriver.
Encore la censure qui frappe.
Et là, on en arrive à l'amour.
Il ne faut jamais y arriver, parce que quand on arrive, il n'y a plus rien à payer.
Omar, il dit l'amour, il faut pas le tenir.
Ah oui,
toujours courir après.
Ah oui.
Le cinéma, c'est pareil.
Enfin, le rêve.
Ouais.
Ben voilà, il faut jamais y arriver, Loulou. Arriver, c'est dramatique.
Je vais aller m'allonger sur le canapé rouge à gauche de Fab. Non, moi, je suis surpris parce que quand même, tu vois, je te connaissais pas avant que j'ai vu le film.
Mais non, c'est de l'oreille de mon tien.
Le film, je l'ai vu en 2014 de façon très cachée. Et je ne te connaissais pas. Voilà. Alors, t'es pas dur. T'es doux, toi.
Ben c'est beaucoup, Loulou. Ça fait...
Non, mais parce que.
Ça fait plaisir d'entendre ça.
Voilà. Moi,
tu veux, je suis doux, Loulou.
Oui, t'es doux. T'es doux. Après, je connais pas. Je connais pas certains endroits de toi.
Pour les auditeurs. Mais
jamais une année m'a dit que je suis doux.
Ah merde.
C'est incroyable, putain. C'est pas juste le loup.
Ce n'est pas un adjectif connu de.
Mais j'aime si ça, c'est incroyable.
Non, mais attends, je voulais. Bon, enfin voilà. Si le mot doux va pas.
Ça fait 40 ans, le loup. Ça fait 40 ans que j'attends quelqu'un me dit que je suis doux. Bon, j'attends. Dans la part des nanas, pas toi, Anelo. Mais bah, franchement,
ça peut peut-être faire le sujet de ton prochain film.
Ouais, hein. C'est ça, c'est nouveau. Prends.
Bah, j'ai pas fini ma phrase.
Oui, c'est clair.
Alors, si t'aimes pas le mot doux, je peux dire tendre.
Tu préfères les deux. Les deux, Lolo.
D'accord. Voilà. Non, mais après, je sais pas. Là, ça y est, je me suis égaré. Mais t'es doux et tendre, et le film est dur et âpre quand même.
Je le suis aussi, je t'assure.
Ah ouais.
Ben, d'accord. Tu sais, moi, je suis un sauvage tendre.
D'accord.
Un petit corazon.
T'as su dès le début que le film allait. À quel moment t'as su que le film allait se terminer avec cette. Cette danse, cette fractale, cette rupture, cette densité, cette cassure.
À quel moment? Aucun moment.
Il y a plusieurs cassures dans le film.
Aucun moment, je t'assure.
C'est vrai ce qu'il dit. Il y a plusieurs cassures très fortes.
Voilà, il y en a plusieurs. Tu en as une
jusqu'à
finale.
Jusqu'à l'ultime.
Je le suis, Lolo, je t'assure. Dans ma vie quotidienne, je suis comme ça.
Mais parce que tu comprends ma question. Moi, je ne l'ai pas. Mais à quel moment tu as su que tu voulais.
Ça s'arrête ?
Non, être dans cette énergie. Parce que moi, des fois, quand je le vois, ce film, après, c'est ma façon de le percevoir, mais il y a d'autres façons. Des fois, j'ai aussi l'impression que c'est quelque chose d'une forme de. Comme un ciné-tract. Tu vois ? Comme une sorte de. Quelque chose de très.
Direct. Revendicatif.
Ouais, mais pas revendicatif, direct. Un mélange des deux, mais aucun des deux.
Il vient de nous donner les chiffres, Lolo.
Oui, drame, ça je sais.
À un moment, il faut arrêter de parler, quoi. Et le cinéma, c'est de la parole écrite avec son langage. Avec
oui, mais justement, c'est pour ça que je demande à quel moment il a eu cette.
Franchement, je n'ai pas de réponse. C'est des questions que je pose moi aussi. Pour moi, le Mougin n'est jamais fini. C'est un cri et je suis encore dedans. Là, Là, j'ai encore des choses à dire pour le Mougin. Pour moi, ce n'est pas fini le Mougin. C'est juste un cri peut-être poétique pour certains, la colère pour d'autres. Mais moi, pour moi, c'est un cri. Je n'ai pas cette prétention de dire ce que c'est. Si moi, je n'ai jamais de réponse. Je doute en permanence. Je ne sais quoi dire. Je ne sais quoi faire, c'est un cri et ça continue. Et ça va être, dans le prochain projet, ça va être aussi, peut-être, on trouvera de le Mougin dans le prochain projet aussi. Et si Omar, si moi, je ne peux pas être autrement.
Ouais, Omar, moi je voulais te poser une question par rapport au titre en fait, du film. El Mouja, El Maouja, comment on prononce ?
El Mouja, la vague.
La vague, ouais. Et. Justement, comment ça t'est venu ce titre de film ? Parce que quand on pense à la vague, il y a plein de choses qui viennent en tête. C'est quoi que tu avais en tête, toi, avec
ce titre ? Surtout pas Nouvelle Vague. J'ai pas cette prétention. Je ne pourrais. Ce n'est vraiment pas ça. La vague, pour moi, c'est l'une des vagues qui a secoué aussi l'Algérie. À chaque fois qu'il s'agit de. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si c'est ici ou bien. Ailleurs, mais je parlais justement de l'Algérie des années 90. On pense tout de suite au terrorisme. Alors qu'il y a une autre vague dramatique qui a secoué l'Algérie, qui est celle du licenciement massif des travailleurs.
Ouais, c'est ce dont tu as parlé tout à l'heure. Ouais.
Qui a provoqué des centaines de suicides.
Ouais.
Pour moi, c'est aussi une forme de terrorisme économique.
Donc c'est une lame de fond plutôt qu'une vague alors.
Mais c'est l'arrêt d'une.
L'une des vagues, parmi d'autres. Et il va encore y avoir des vagues d'espoir aussi, des vagues dramatiques. Il va encore y avoir des vagues. Et tout le rêve justement, mes rêves. Moi je suis un rêveur. Et j'attends. Il est parmi ces des vagues et puis. Parmi ces vagues, il y aurait quelque chose de beau, de très beau. Et voilà, donc c'est la vague, c'est l'une des vagues l'une des vagues dramatiques, désastreuses, qui a plongé des milliers de familles algériennes dans la misère. Si je dis misère, c'est aussi c'est des misères qui ont provoqué des suicides, des désespoirs fatals. Et voilà, donc.
Ouais, parce que il y a comme disait Lo, c'est-à-dire qu'il y a à la fois il y a beaucoup de, enfin il y a beaucoup de violence dans le film au sens où il y a quelque chose d'extrêmement tragique et en même temps on sent. Beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour aussi dans cette histoire de père et de fils. Et donc, ça, c'est pour moi la partie vraiment aussi poétique du film qui permet à pas être dans une espèce de confrontation stérile, mais aussi qui passe par une émotion collective aussi.
Aujourd'hui, j'ai une profonde conviction que l'espoir, la poésie, l'amour, tout ce qui est beau provient des cendres de la tragédie, du drame, du malheur. L'espoir, la beauté n'a pas de sens sans le malheur, sans le désespoir. Donc, ils vont ensemble. Dans le film Le Mougin, il y a des choses vraiment violentes, mais il y a beaucoup de belles choses aussi. Elles vont ensemble. Elles vont ensemble. On peut pas savoir si on est heureux sans le malheur. Sans connaître le malheur. On ne peut pas savoir si on est debout, si on ne sait pas ce que c'est être à plat ventre ou à genoux. Donc,
oui, j'ai l'impression que c'est ça justement qui crée le commun dans ton film, en fait. C'est qu'il y a une souffrance collective vraiment qui part de cette tragédie qui est somme toute assez, banale au sens qu'elle touche, comme tu le disais très bien, un grand nombre de personnes là-bas. Ouais. Donc tu ramènes à une souffrance, d'un pays entier à travers une histoire singulière, en fait.
Oui, il y a quand même quelque chose de... Moi, je m'inspire beaucoup de ce que j'ai vécu, de ce que je vois, de ce que quand j'écris dans l'écriture, quand j'écris mes scénarios, à aucun moment j'essaie d'inventer des situations. C'est des situations que j'ai vues quelque part, c'est des visages que j'ai rencontrés quelque part. Mes personnages, ils sont réels. Ont toujours été vrais. D'ailleurs, dans mes castings, je ne fais jamais de casting pour chercher des comédiens. Il suffit juste d'aller dans des cafés populaires, aller dans des marchés, chercher ces visages qui m'ont inspiré, qui m'ont interpellé d'abord et m'ont inspiré ces personnages qui sont dans le scénario. Je les trouve, ils sont là. Ce que j'ai fait dans le Mougin. Je n'ai à aucun moment inventé une situation, un visage, un regard, un geste ou autre. Je suis comme ça. Donc, quand j'écris, ça m'arrive d'avoir les larmes aux yeux. Parce que c'est des situations que j'ai déjà vues à quelque part. Je ne me souviens pas. C'est des visages qui m'inspiraient, qui m'interpellaient, que j'ai croisé quelque part, mais je ne me souviens pas. Mais il revient dans l'écriture. Et après le scénario, je vais chercher ces visages. Et je les trouve. C'est ce que j'ai. Dans le Mougin, c'était vraiment la même chose. J'ai trouvé ces visages. Parce que c'est vrai que c'est une fiction. Mais je me pose des questions aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est une fiction et qu'est-ce que c'est un documentaire? Je t'assure, c'est des questions que je pose sérieusement. Je n'ai pas de réponse. C'est quoi la fiction d'abord? C'est quoi le documentaire? C'est quoi la réalité? C'est quoi le cinéma? C'est quoi un plan? C'est des questions que je pose. Je n'ai jamais la prétention de porter de réponse, mais c'est toujours des questions, que ce soit prochain projet, que ce soit le Mougin, que ce soit les premiers courts-métrages. Je doute en permanence. Je ne sais rien. Je n'ai vraiment pas de réponse. Rien, je ne sais rien. Je brûle. Là, je brûle. Yeah. Mon corps brûle. Je suis en colère en permanence, donc voilà, je pose des questions avec des amis, avec des complices, avec qui, voilà. Et aujourd'hui, il y a Caroline Beuré qui était au montage, elle a fait un travail extraordinaire parce qu'elle a senti ma colère. Il y a Lucie Desch aussi qui était au son.
Je pense qu'on est un peu en colère aussi.
on est sûrement tous en colère. Je n'ai jamais de réponse. Je pose des questions en permanence. Je doute.
Les questions, Omar, elles sont vraiment posées. Et sur ce plan, sur cet écran, et tes phrases, elles ont atteint, à mon avis, celui qui regarde. Grâce au travail de cette collaboration que j'espère t'apportera, réalisera ton prochain rêve.
Sans eux, je ne suis rien.
Ce plan séquence qui est tourné sur le port de Bjaïa, ce défi que ton équipe a mis en place, ça peut paraître futile, ça peut paraître vraiment quelque chose de très simple, parce que réaliser un rêve, c'est ouvrir la porte des merveilles à beaucoup de gens. Moi, je pense que s'il y a une dédicace à faire de ton film, c'est d'abord un hommage à tous ces disparus en silence, tous ces morts dans de l'anonyme que sont la force ouvrière qui meurt. Sous le regard de soi-disant responsables, souvent analphabètes. Et on l'a dit hier encore, c'est pas parce qu'on va à l'école qu'on ne devient pas analphabète. C'est peut-être à cause de l'école qu'on devient analphabète.
Ouais.
Et de ne pas voir ça, la... de ne pas voir le regard de ces...
Pardon, l'école, c'est l'aliénation. C'est l'aliénation, l'école. C'est pour te rejoindre.
Un hommage à ces disparus dans l'anonymat. Un hommage à tous ces gens-là qui te remercieront, qui, et qui trouveront certainement un chef de file. Parce que quand on est dans le désespoir, il nous faut toujours un chef de file. Et aussi un courage aux réalisateurs de notre Maghreb, qu'ils suivent ce modèle. Que ce ne soit pas de la fiction dramaturgique ou dramatisée plus que le drame, mais que ce soit la dramaturgie qui porte cet espoir. Et moi, je l'ai vu, cet espoir. Je l'ai vu. Tu décris avec une simplicité et une efficacité. Les plans sont vraiment des plans de maître. Je rassure, je rassure mes nerfs, mais c'est vrai quand on voit les difficultés, toutes les contraintes pour tourner un plan séquence comme il est tourné sur ce port de Bjaïa, quand on nous a jamais parlé d'un truc comme ça, on peut pas tourner d'images. On ne peut pas tourner d'image, malheureusement, chez nous, avec autant de liberté. Et là, moi, j'ai vu un soupçon de liberté, un homme libre qui tourne et dans l'anonymat aussi. Dans l'anonymat. Tes acteurs, je ne sais pas où tu les as trouvés, ces gens-là. Mais aussi...
Il l'a dit tout à l'heure, il les a trouvés dans les différents cachets.
Un chapeau à ces gens-là qui t'ont suivi. Oui. Qui t'ont suivi dans cette aventure.
C'est ses amis.
Parce qu'ils se sont mouillés avec lui. Ils se mouillent à ce moment-là. Ils se mouillent dans ces moments-là. Parce qu'il suffit juste qu'un plan foire. Ce taxi qui arrive. Et on sent toujours la caméra qui observe ce moment que quelque chose va débarquer dans le cadre et qui n'est pas soupçonné. C'est-à-dire, bon, un contrôle policier, etc. On peut deviner, hein. Et donc, ça peut tout mettre en plan et ça peut dématérialiser l'envie de faire d'une équipe autour d'une réalisation fragile. Et là, on trouve un courage quand même, un courage et au moins des phrases qui sont dites jusqu'à la fin. Il n'y a pas de coupe dans le plan séquence. On attend venir voir. Et là... C'est pour ça que je dis qu'il y a un courage. Autant les opérateurs qui ont travaillé avec vous, vous avez travaillé ensemble, autant la prise de sang où Lulu, elle est témoin, et on s'entend bien sur ces moments furtifs qui peuvent tout nous mettre dans la gueule. Et c'est ça la fragilité d'un cinéma.
Et il y a Gaïa aussi.
Ah ouais, il était joué avec moi.
Et on est fiers d'avoir fait ce clan.
Ouais, attention, doucement, parce que là, Fab vient de me dire quelque chose dans l'oreille, que certains écoutent nos émissions et ils ont l'impression qu'on est dans un entre-soi. Donc faisons attention au clan. Hein. On est avec les autres aussi.
Mais non, mais c'est parce que dans les, enfin, t'invites des gens qui ont des liens et c'est, bah oui, c'est oui. Pour ça, c'est juste ça. C'est
ah vrai. Bah oui, bien t'as vu. Mais justement, des
fois, on est en famille.
On est en famille, mais c'est parce que c'est fait pour.
Lo, tu as couché avec chacun d'entre nous, rappelle-toi.
Sauf moi. Je ne me souviens pas de tout.
J'attends mon tour.
T'étais sous, Wave.
Mais je suis toujours. Je rêve, moi, debout et je marche. Merci à Omar en tout cas.
C'est moi qui vous remercie. Moi, franchement, je suis pour rien. Je l'ai déjà dit.
Si tu y es pour quelque
mais
chose,
c'est fou mais parce pas que. En fait, ce que tu veux balancer aussi quand tu parles de cette période et de cette transition, qui est une transition économique en fait, qui est une transition structurelle de l'Algérie. Tu parles de la chute aussi d'un rêve qui est compliqué à appeler rêve, quoi, mais qui est la chute d'un système en fait, politico-économique. C'est la chute des entreprises publiques, quand même. On peut en parler, en fait, parce c'était, que là,
c'était le passage de l'économie étatisée à l'économie du marché. Mais c'est que là...
Toi, t'es un enfant, t'es complètement un enfant de Boumédienne. Ouais. T'es un enfant de l'État surpuissant qui donne à manger à tout le monde, en fait.
D'abord l'enfant de sa mère et de...
Pardon, c'est parce qu'on est dans la dimension politico-économique structurelle, pardon. Évidemment, nous rendons hommage à ta maman et
à son père aussi.
Et à ton papa.
Ok, n'idée pas.
C'est une émission psychanalytique ce soir.
Et ça passe par là. Non, mais. Non, mais t'es un enfant de ça, quoi. Et du coup, t'as vu.
Moi, je suis un enfant de base, en vérité.
De que dalle.
Je vous assure que je suis un enfant de personne.
Non, mais on est arrivé à une Algérie qui n'a plus d'économie de production et tout ça. Et c'est,
non, c'est que...
Et là, c'est fou parce que
les années 90, c'est que l'Algérie a été surendettée, donc asphyxiée par la dette. Et le FMI a profité de l'occasion de faire pression...
Pour écraser toute la...
Faire pression... Pour passer à l'économie du marché, donc il faut vraiment fermer les entreprises publiques, il faut décentraliser l'économie, etc. Donc, on est passé de l'économie étatisée à une économie du marché.
De marché d'importation.
Non, c'est que le FMI s'est fait vraiment avoir. Il a oublié qu'il avait affaire à des généraux et non à des politiciens.
Alors ça, tu m'as fait marrer l'autre jour. Enfin, je ne sais pas si tu m'as fait marrer, mais au Polygone, tu as dit ça. Et je me suis dit, mais attends, est-ce que je me trompe ou là, il y a une sorte de naïveté parce qu'en fait, le FMI ne se fait pas avoir. Enfin, moi, je ne pense pas que le FMI puisse se faire avoir par une mafia de généraux. Et je pense plutôt qu'il y a du bise qui arrange tout le monde. Enfin, c'est pas que...
Ouais.
Comment il s'est fait avoir, le FMI ? Il est complice. Enfin, ils sont fous, lui, que ça parte en couille comme ça.
Non, bien sûr qu'il est complice. Bien sûr qu'il a toujours soutenu les dictatures. N'oublions pas quand même Christine Lagarde, il n'y a pas longtemps, elle a considéré le roi saoudien l'un des plus grands défenseurs des droits de la femme le lendemain de sa mort.
Allez.
Donc ça s'est connu. Donc ils n'ont pas de leçons à nous donner en matière de démocratie, liberté et civilisation, etc. C'est que comme l'Algérie a été surendettée, donc la dette extérieure a atteint quand même 26 milliards en dollars, et le FMI et pensait vraiment porter venir à l'aide du peuple algérien, mais en réalité, il tenait vraiment et pense à l'État algérien, il pense au système. Il a imposé le plan d'ajustement structurel, donc compression d'effectifs, fermeture des entreprises publiques. Et la meilleure façon d'économiser, se faire de l'argent et pouvoir rembourser les dettes de l'État. Et donc, voilà, on a, on a quand même, il y a plus de...
Qui ne seront d'ailleurs jamais remboursés.
Ils ne le seront jamais.
Ils
ne le
seront jamais.
Ah oui, non, ça c'est sûr. Donc, il a fait pression sur l'État algérien de passer de l'économie étatisée à l'économie du marché. C'est-à-dire préparer le terrain multinational, le lieu, donc les entreprises publiques vont être privatisées au profit des multinationales, au profit des multinationales. Il a commencé à fermer des entreprises, mais ce qui sont à la fin, en fin de compte, c'est que les généraux ils n'ont pas ouvert le marché multinational. Ils préféraient l'importation.
Ouais.
Ce qui, on a vu le travelling sur les conteneurs, ce qui comme symbolise l'importation, import. Il n'y a jamais d'exportation, parce qu'à part le pétrole, l'Algérie n'exportait vraiment à rien à part le pétrole.
On a quelques dates.
Là, c'était vraiment des années 90.
Je pense aux fruits, les dates.
Deux.
Ils exportent quelques dates.
Des figues, non ?
Non, les dates ni figues.
Des figues de barbarie.
Et que le pétrole. Voilà, donc, au lieu de privatiser, céder les entreprises publiques aux entreprises privées, ils ont accepté l'importation au lieu de la production en Algérie. Dans le film, on a vu quand même l'importation du blé, on a vu les conteneurs. Donc, imagine, on ferme des entreprises publiques, des entreprises de textiles pour importer des trucs de la Chine. On a vu je vais vous donner un exemple. À Aqbou, c'est une zone industrielle à Bijaya. Il y a une entreprise qu'on appelle Sonipec. Elle produisait des chasseurs de sécurité. L'État a fait pression sur l'entreprise pour fermer. Parce qu'elle ne peut plus, parce que l'entreprise ne répond plus aux besoins et à répondre au salaire des ouvriers, des travailleurs qui bossaient dans la société. Alors que ils ont fait pression sur l'entreprise, le directeur lui-même, qui aujourd'hui est devenu un complice, un ami. Il me disait qu'il y avait des généraux qui ont envoyé un capitaine avec son armée à l'entreprise pour fermer l'entreprise carrément pour pouvoir importer des chasseurs de la Chine. Ça, c'est une entreprise de chasseurs de sécurité. Alors que rien que la Sonatrach, qui emploie plus de 800 000 ouvriers, alors que l'entreprise nationale, Sonipec, n'arrivait pas à satisfaire le besoin rien que des travailleurs de la Sonatrach. Ils ont fermé l'entreprise pour importer des chasseurs d'ailleurs, de l'extérieur, de la Chine.
Ou recycler.
Recycler
de la matière première. Par exemple, en tomates concentrées, tout le monde sait, par exemple, connaît une certaine marque de tomates concentrées qui viennent d'importation algérienne ou tunisienne aussi. Et qui sont, c'est que de la recyclerie de tomates que la France n'acceptait pas auparavant par les contrats liés avec la Chine. Donc la Chine s'est démerdée pour nous faire un passage. C'est-à-dire que la tomate chinoise est recyclée, réemballée en Algérie pour être transitée sur le marché européen parce que les accords entre la Chine et la France ne permettent pas sa commercialisation, alors que c'est de la vraie tomate. Voilà, et donc ça, c'est des circuits internationaux dont tu parles, Omar.
Voilà, donc là, j'ai cité Sonipec comme exemple, parce que c'est juste c'est à Aqbou, c'est pas loin de chez moi, donc je connais le responsable de l'époque, qui aujourd'hui sont en chômage. C'était des cadres comptables, directeurs, gestionnaires qui géraient l'entreprise, ont été forcés au chômage, fermer l'entreprise pour importer des chasseurs de la Chine. Voilà, donc c'est pour ça que l'UFMI s'est fait avoir par la mafia, par les responsables, par l'État, par le système
européen.
Parce qu'en Algérie, quand même, c'est la politique. Aujourd'hui, on voit la naissance de l'oligarchie. Et ceux qui sont à l'origine de l'oligarchie sont ces politico-financiers qui ont été au pouvoir depuis très longtemps. Donc voilà, on est passé de l'économie, trust, on est passé de, au grosso modo, on est passé de l'économie centralisée à l'économie de bazar, ouais. au lieu de l'économie du marché, ce que le FMI a toujours.
Ils vont finir par abdiquer à ce truc.
Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on, se remette en quête.
Non, voilà.
En quête de quoi? Alors nous arrivons à la fin de ce moment. Non. Pas encore, mais bon, je dis la fin, parce qu'à la Marseillaise, la fin s'étale. Omar, quelques mots sur l'après, ton film d'après? Est-ce que tu peux nous en donner quelques mots ou pas? C'est secret. Il n'y a pas peut-être.
Ah, franchement, c'est vraiment pas intéressant de parler du prochain, du moment que... Mais je peux vous dire quand même, ça va être toujours dans la même démarche, le même esprit, avec 10 amis. Il va se faire avec 10 amis. Et c'est que cette fois-ci, ça va être un long métrage. Et pour ça, il me faut quand même de l'argent, cette fois-ci.
Ah, donc beaucoup de figues à vendre.
Deux. Malheureusement, non. Il faut vraiment de l'argent du ministère de la Culture algérien.
D'ailleurs, en parlant de films, il y a un grand merci aussi qu'on peut passer. Peut-être qu'il nous écoute là où il est dans sa montagne. C'est un gros bisou à Gaïa, quand même. Hein,
ouais,
il
nous écoute. Grave.
C'est vrai, si on nous écoute, on en passe spécial bien
fort. Dédicace, on très fort.
qui résiste dans le milieu de la production.
C'est un ami fidèle. Montagne des collines de Marseille.
Un ami sûr, fidèle.
Qui était l'assistant.
Il faut savoir que les matières premières font partie du premier secteur, c'est-à-dire de l'agriculture. Donc, parlons pas du... Hein, de l'uranium enrichi, des phosphates marocains.
Non, ça serait peut-être...
Et Caro, quand tu es rentré du montage, je t'ai vu et tu avais un œil étrange.
Ah, le troisième œil.
C'est le karma qui s'était développé.
Qu'est-ce qui s'est passé alors
Qui est passé du gros orteil
au cabinet.
Non, avant d'arriver, en fait, je suis arrivée chez Omar et j'avais déjà un orgelet qui me défonçait l'œil. J'étais comme une boxeuse et je suis arrivée, je lui ai dit, ben voilà la tranche de ta monteuse. On ne se connaissait pas, c'est des amis qui nous ont dit, vous allez bien vous entendre. Et il m'a vu arriver comme ça, je lui ai dit, bah bonjour.
Avec un seul œil.
Voilà, avec un seul œil.
Montage avec un seul œil. Avec un seul œil.
Tu as le privilège d'avoir vécu ce qu'il y a sous les tombes, hein, Caro?
J'ai pas compris. Non,
il t'a enfermé.
Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as vécu ce montage?
Elle était plutôt en hauteur, dans le grenier.
Et ben, je l'ai raconté un peu en début d'émission.
dans un grenier.
C'était à l'aïkido.
Dans un grenier à moitié allongé.
À moitié allongé.
Ouais,
non, pas du tout.
Pourquoi?
Parce qu'un grenier, c'était les combles, et du coup, on pouvait pas poser un vrai bureau de montage. Donc, il y a des canapés. C'est un bon espace, le grenier. Il y a beaucoup de belles ondes. C'est vraiment agréable, cet espace. Mais c'était plutôt le dérochage. Après, on est allé à Béjaïa, dans d'autres conditions. Et voilà.
Et pourquoi tu as eu besoin de convoquer Caro?
Ben, c'est grâce à Lucie et Tarek Samy aussi. Tu vois, c'est on est dans le même univers quand même. Il y a une complicité. Tarek, s'il m'avait proposé Caroline, Belay, ce n'était pas par hasard. Ce n'était vraiment pas par hasard.
Des choses qui se savent, qui passent comme ça, un peu mystérieuses. Mais...
Spéciale dédicace à Tarek aussi, quand même.
Ouais, grave.
Il y a une énorme complicité avec Caroline, Lucie, Tarek, Gaïa, Sifax, du comédien, Rayes, Mourad, tout, Abdelnour, Latifan, franchement, c'est... Zindine, Gemma, Madanine.
On embrasse tout le monde.
On embrasse tout le monde. Et je ne pourrai jamais remercier assez.
Et coucou.
Il était dans la Légion. Et c'est le fils de Mustapha Raïs. C'est le prochain. Et donc, sans vraiment ce beau monde, franchement, je ne serais pas là. Si ce n'était pas vraiment leur générosité, leur amour, leur passion, leur rage, leur désir d'avancer, d'aller le plus loin possible, le Mouja n'aurait pas aujourd'hui je ne sais pas si c'est vraiment un succès, mais quand même, le Mouja, il a fait quand même 41 pays. Et il a fait le tour du monde. Ce n'est pas le film de Omar Belkacem. Ce n'est pas vrai, ça ne pourrait pas être possible sans tout ce beau monde, toute cette générosité, cette patience, cet amour, toute cette poésie que cette équipe, mes amis qui sont derrière le film, s'il n'y aurait pas de poésie dans leur sang, Mouja n'aurait pas existé. N'aurait pas si inaperçu comme mon premier film d'ailleurs. C'est l'amour, c'est l'amour. La force de Mouja, la force de. Je pense. Le public me l'a dit. Partout dans le monde, dans toutes les projections de Mougin, après les débats, les gens me parlent de la force, de la puissance du film. Cette puissance, c'est la générosité, c'est l'amour. Je le répète parce que j'insiste et je le répète encore. Je ne cesserai jamais de le dire et de le répéter. J'insiste. Le Mougin, dans tous les débats, dans toutes les projections, à chaque fois, il y a le mot de la puissance qui revient. Il y a le mot de la force dans le film que le public me... Il n'y aurait pas cette puissance. J'ai une profonde conviction, je le crois. Il n'y aurait pas cette puissance, il n'y aurait pas cette force. Il n'y aurait pas le Mougin sans vraiment... l'amour, la passion, la rage, la colère de tous ces gens qui ont été derrière le Mouja. Je ne suis pour rien. Je vous assure que je ne suis pour rien. C'est leur amour, c'est leur envie, désir de dire quelque chose, de vivre, de dénoncer.
Bah, y a ton désir, il y a ton scénario, il y a tout ça.
Ce n'est qu'une intention, je vous assure. Sans vous, le Mouja ne serait pas là aujourd'hui à Flem, polygone étoilé.
Et sans tous les gens que t'as croisés dans le bus, dans les marchés, dans les cafés, sans tout,
oui,
sans,
ben,
dans le monde.
C'est pour ça que je parle de l'amour. C'est pour ça que je parle de la poésie. La poésie n'appartient à personne. Elle est libre, la poésie. L'amour, il est libre. C'est pour ça que j'insiste sur l'amour, la poésie, la passion, la rage, l'amour, la poésie, la rage, la passion n'appartient à personne.
Parce qu'à ce moment, quand tu es en défi et que tu t'exposes face à ta société, tu es porté par des ailes et toi, tu es ce squelette. Tu es ce squelette qu'attendent les vautours et ces ailes... C'est eux qui font fil avec. Parce que ça me fait penser à une phrase qui me semble très juste. Ce ne sont pas les perles qui font le collier, c'est le fil. Et je retiens cette phrase parce que tu as... avec grande vraie modestie, pas une fausse modestie, tu as expliqué ce rapport au cinéma. C'est la confiance, la fidélité et l'amour. Et ça peut exprimer toute la rage. La manière comment on traduit une situation des plus dramatiques, avec autant de caresses, autant d'amour et d'amour et de ça n'a pas de mots, quoi. Ça, on ne peut pas traduire ça avec des mots, il faut aller le voir, ce film. Moi, j'invite nos auditeurs à aller voir ton film, à aller voir nos films. Et c'est pas non plus par fausse modestie, encore une fois.
La rage, mais la rage et l'amour, c'est vraiment pas loin.
C'est par amour à ces gens, à ce public qu'on attend de venir voir ces films. Parce que ça n'est pas de la comédie.
Franchement,
ça n'est pas du théâtre de trottoir.
Fais-moi jouir encore une fois. Nous arrivons à la fin de
l'émission. Non, Lolo, là je t'assure que c'est tellement touchant, c'est tellement que c'est émouvant qu'il me le donne confiance.
Et on l'aperçoit souvent.
Oui, souvent. Là, c'est tellement fort, c'est un instant vraiment fort que je retrouve confiance. Je me dis que finalement, avec l'amour, l'amitié, tout est possible.
Et le hasard.
Les luttes sont possibles. Sans lutte, il n'y aurait jamais d'histoire. Il n'y aurait pas de l'humanité sans les luttes. Et
sans amour, pas de lutte.
Et ben c'est l'amour, tout est question d'amour. Il faut croire à la vie, il faut croire à l'amour. Croyez-moi que tout est possible si on croit à l'amour.
Voilà, nous arrivons à la fin. Merci Wahib. Merci Julie.
Merci.
Fuck off,
merci Lucie. Merci Caroline. Merci David. Et un grand merci Omar.
Qui danse.
On vous conseille ce film El Moudja. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez contacter dérive.tv pour le voir. On vous donne rendez-vous.
Ah bon, apparemment.
On vous donne rendez-vous dans 2 mois. Bonne soirée à vous.
Au Rusla et ses environs.